bonnes feuilles. Car entre au monde de la rentrée littéraire, lu par leur auteur. Aujourd'hui, sans état d'âme, d'Yves Ravet.
Alors, je lis Jan Andreas Steiner de Marguerite Duras. Avant tout, au départ de l'histoire ici racontée, il y avait eu la projection de India Song dans un cinéma d'arrêt d'essai de cette grande ville où vous viviez. Après le film, il y avait eu un débat auquel vous aviez pris part. Puis après le débat, nous étions allés dans un bar avec des jeunes agrégatifs de philosophie dont vous faisiez partie. C'est vous qui m'avez rappelé après, bien après, l'existence de ce bar, assez élégant, agréable, et que ce soir-là, j'avais bu 2 whisky. Moi, je n'avais aucun souvenir de ces whisky, ni de vous, ni des autres jeunes agrégatifs, ni de l'endroit. Je me souvenais, ou plutôt, il me semblait que vous m'aviez accompagné au parking du cinéma où j'avais laissé ma voiture. J'avais encore cette R16 que j'adorais et que je conduisais encore vite à ce moment-là, même après les accidents de santé que j'avais eus à cause de l'alcool. Vous m'aviez demandé si j'avais des amants. J'ai dit, plus aucun, que c'était vrai. Vous m'aviez demandé à quelle vitesse je roulais la nuit. J'ai dit 140, comme tout le monde avec une R16, que c'était magnifique. Je viens de lire Marguerite Duras, Jan Andreas Steiner. Alors j'ai choisi le début de ce livre, et puis d'ailleurs tout le livre entier, à cause de la voix, à cause du ton de Marguerite Duras, qui m'accroche en permanence, et parce que c'est un rythme de phrase auquel j'aime être habitué. Elle s'adresse à quelqu'un, elle s'adresse à Jan Andreas Steiner, elle lui rappelle la première fois qu'ils se sont rencontrés. C'est quelque chose de très fort, enfin, dans ces phrases simples, Duras me renvoie à des sentiments extrêmement forts, et je les ai immédiatement à chacun de ces textes. Particulièrement dans celui-là, mais c'est aussi à cause de la présence de Jan Andreas Steiner. Et puis aussi, ça me rappelle ce roman qui s'appelle MD, de l'auteur, de Jan Andreas Steiner, en réciproque. Il écrit, lui, sur leur rencontre et sur leur vie. Il y a quelque chose à l'intérieur de cela qui me rapproche de l'existence, et c'est très important. Voilà.
Nous allons vous entendre lire les premières pages de Sans état d'âme.
Alors je lis Sans état d'âme. Au moment de dormir, enfant, si le vent était à l'ouest, et quand les locomotives s'engouffraient dans le tunnel au loin, me parvenait, chaque soir, le ferraillement saccadé des wagons de marchandises qui reliaient les usines de construction automobile à la frontière. C'était des convois sans fin. Je me souviens qu'après l'école, descendant du car de ramassage scolaire, je m'asseyais, avec Stéphanie et Betty, sur le parapet du pont, au-dessus du ruisseau. Et tous les trois, nous assistions au passage des trains aperçus à l'horizon, derrière la ligne des peupliers. Notre jeu préféré, c'était compter les wagons, yeux fermés, mains sur le visage, dans un temps imparti, en nous repérant au rythme des roues sur les rails. Le plus souvent, j'ouvrais à peine les paupières, écartais les doigts sans que mes camarades ne s'en aperçoivent, et quand le meneur de jeu, qui lui comptait à voix basse, les yeux ouverts, criait « stop », chacun donnait son chiffre, toujours je tombais juste et je gagnais la partie. Le jeu terminé, j'entendais la voix de mon père sur le chemin qui m'appelait pour les devoirs. « Gu !» criait-il au coin du champ de maïs, « c'est l'heure !»« Gu, c'est Gustave !» Gustave Leroy. La dernière fois que nous nous sommes parlé, mon père et moi, je lui ai présenté mon permis de conduire poids lourd tout neuf et mon certificat d'embauche dans l'entreprise de transport international messager. Sa maladie touchait à sa fin. Il m'a dit, après m'avoir félicité, qu'un de ces jours prochains, je reviendrai d'un voyage à l'étranger avec mon camion et il ne serait plus là. Alors, je devrais veiller à garder le seul bien qui nous restait, notre maison qu'il avait construite de ses propres mains avant l'hospitalisation de ma mère. Mon père, qui avait travaillé toute sa vie dans l'exploitation agricole, au service de Blanche, la patronne, avait contracté de nombreuses dettes avant de mourir. Je l'ai su quelques mois après le décès. Blanche habitait la propriété voisine. Elle a sonné un matin à ma porte pour m'annoncer que la maison serait bientôt frappée d'alignement et je ne l'ai pas cru. Les services municipaux m'auraient averti sinon. Alors, sa fille, Stéphanie, m'a montré l'acte de vente signé par mon père contre annulation de la dette peu avant sa mort. Et Blanche m'a conseillé d'envisager un nouveau logement. On construisait des immeubles à loyer modéré là-bas, derrière le canal. Elle m'a dit se lancer dans une opération immobilière qui comprenait l'ensemble de l'exploitation agricole. Elle vendait aussi les champs de blé et le terrain le long de la rivière. Blanche avait tout calculé, tout prévu. Elle m'a rappelé que sa fille et moi, nous avions grandi ensemble au bord du champ de maïs qui s'étendait au loin derrière la propriété. Ainsi, elle pensait que je ne réagirais pas à propos de la vente de la maison de mes parents. Pour une seule raison, j'étais amoureux depuis mon plus jeune âge de Stéphanie. Mais elle avait tort. J'étais amoureux, certes, mais pas au point de me laisser abuser. Quand Stéphanie est tombée amoureuse d'un autre, j'étais loin, au volant de mon semi-remorque sur une route de Bulgarie. Je livrais un chargement de pièces détachées pour machines-outils dans une zone industrielle de Sofia. Et j'attendais un nouveau fret pour la Roumanie et le Monténégro. Ce nouvel ami de Stéphanie était différent de moi. Il avait de l'argent, du moins, il en donnait l'impression. Ses noms et prénoms, John Lloyd. C'était un touriste américain. Personne, et moi encore moins que les autres, ne savait comment il avait atterri à cet endroit. John Lloyd s'était d'abord installé dans un hôtel du centre-ville. Puis il s'était décidé pour un établissement de standing, non loin de la zone des étangs et du terrain de golf. Tout le monde, cependant, avait compris pourquoi il avait d'abord changé d'hôtel et pourquoi il était resté ici. Un jour, il avait fait la connaissance de Stéphanie. Et dès lors, tous les soirs, on l'a vu au dancing Le Meierling, où travaillait Stéphanie, à la sortie de la ville, direction la frontière. Il a été rapidement reçu dans la maison de Blanche. Des transactions financières avaient lieu entre eux. Il donnait de l'argent à Blanche pour ce projet immobilier dont elle m'avait parlé, ou du moins, elle lui en soutirait. Je connaissais trop Blanche pour ne pas me douter de ses capacités à détecter les bonnes sources de placement. John Lloyd avait loué une voiture de luxe au garage Signori. Ça plaisait à Stéphanie. Elle aimait se promener avec lui en voiture, sortir du centre-ville pour emprunter les routes forestières et les chemins de halage le long du canal avant de se rendre au casino le samedi soir. Mais un jour, John Lloyd a disparu. Sans avertir personne, même pas Stéphanie. Tout le monde a dit à la longue, qu'il était retourné dans son pays, l'État du Minnesota. Certains expliquaient son départ précipité par le manque d'argent. Dans ce cas, on pouvait supposer que Blanche l'avait ruiné. Cela s'est dit nombre de fois, tout juste, paraît-il, s'il avait de quoi payer son billet d'avion. Aussi, la rumeur a couru que Stéphanie l'aurait éconduit. Mais Stéphanie m'avait déclaré qu'elle l'aimait toujours. Il était l'homme de sa vie. Impossible donc qu'elle s'en soit séparée, même sur un coup de tête. Ce qui était certain, par contre, c'est que, la nuit de la disparition, John Lloyd avait quitté très tard le parking du Meyerling en compagnie de Stéphanie. Pas un seul des derniers clients ne l'avait entendu démarrer son auto, ni vu partir, sauf le gardien de nuit de la station de Pipeline, non loin de là. Il l'avait aperçu durant sa ronde vers les 2 heures du matin, au ralenti. Les pneus de la voiture crissaient doucement sur le bitume. Il roulait lentement. Un jour, après sa disparition, Stéphanie est venue frapper à ma porte. Je ne m'attendais pas à sa visite. Je l'ai dit. Elle a répondu qu'elle avait besoin de moi. Je lui ai fait remarquer cependant, pas au point d'avoir empêché ta mère de récupérer notre maison pour la faire démolir. Elle a répondu que je voyais tout en noir et qu'on en reparlerait plus tard. Puis, elle en est venue à la raison de sa visite. John est parti sans rien dire et il faut que tu le retrouves. Elle a ajouté qu'il ne resterait pas absent indéfiniment. Sa conviction était faite. Même s'il est à l'étranger, même s'il est loin, même s'il est retourné dans le Minnesota, je veux, tu m'entends, Gu, c'est un ordre, que tu le retrouves et que tu le ramènes. Je payerai ce qu'il faut. Mon intention, très simple, était de parler d'un escroc qui serait tombé amoureux, sachant qu'il est peut-être tombé amoureux parce que escroc. J'ai voulu aussi essayer de me mettre de son point de vue à l'intérieur de lui et raconter comment il parvient, enfin comment il finit par commettre l'irréparable et comment il met beaucoup d'énergie à se perdre lui-même. J'ai voulu aussi parler de quelqu'un qui est face à l'abandon de lui-même. Ça m'importait de raconter ça dans une intrigue, dans une histoire, et dès lors que j'ai eu ce personnage qui s'appelle Gu, voilà, qui se prépare à commettre l'irréparable, j'ai senti que je pouvais démarrer, voilà. Et c'est venu en cours d'écriture. Comme tout début de roman, je me sens en train d'écrire comme plantant le décor, plantant le milieu dans lequel va habiter ce personnage qui est quand même le narrateur, et que donc, en même temps que je l'écrirai, que j'habiterai donc, et je suis en mesure, au moment où j'écris, si les choses se déroulent normalement par rapport à la construction du personnage, de définir l'endroit où il se trouve. Donc j'avais cette chose importante de le situer dans un pays de champs, dans un pays agricole, avec de l'industrie aussi, voilà. Et de donner certains éléments, c'est-à-dire que je le voyais très tôt faire face à des difficultés, d'une part le décès de son père, l'absence ou du moins la difficulté par rapport à sa mère et sa relation amoureuse. En fait, tout part d'une relation amoureuse, tout part d'un désir, et le roman est construit sur ce désir, je crois. Je crois que c'est l'élément essentiel, l'amour, voilà. Alors j'ai pensé à cette musique qui m'habite, comme m'habite l'œuvre de Mahler, particulièrement la symphonie numéro 5, enfin dans le quatrième mouvement qui évoque en même temps, pour beaucoup d'auditeurs, ce passage où nous avons le début du film « Mort à Venise » de Visconti, ce passage où le bateau entre dans le Grand Canal, entre la douane et le Lido, qu'il atteint le port. Et cette caractéristique, c'est le fait que c'est un passage extrêmement lent. La musique est lente. Elle prépare à l'action. Mahler a écrit lentissimo, enfin le sehr langsam. C'est-à-dire que les choses doivent être posées. Il faut qu'on ait tous les éléments, j'ai dit du décor, mais ça convient aussi pour le cinéma. Et il y a ce personnage, enfin cet acteur déjà, ce personnage qui entre lui-même dans Venise et qui va faire une rencontre lui aussi. Et il y a un cri à un moment donné, quand il est sur la plage du Lido, devant le grand hôtel des Bains, où il entend appeler ce jeune garçon dont il va faire la connaissance, qui s'appelle Tadzio, par la mère, par sa mère, jouée par Silvana Mangano. Et j'ai un peu cet écho dans mon roman, c'est très simple, du personnage principal quand il est enfant, qui est appelé par son père au bout du... Là, on n'est pas à Venise, on est loin, très loin de Venise, on est très loin de la lagune. On est au milieu d'un champ de maïs, au bord d'un pont qui laisse passer un ruisseau dans une ambiance agricole et industrielle aussi. Et ce personnage est appelé par son père, voilà. J'ai cette idée quand j'entends cette musique et puis quand je revois des images du film, quand tout homme habite un souvenir. Et je pense que quand ce personnage, Aschenbach, joué par Dirk Bogarde, entre dans Venise, il est habitué par un souvenir. Et tout souvenir qui habite un homme est un souvenir d'enfance. C'est ce qu'il va rencontrer dans ce miroir que va lui présenter ce jeune garçon qui s'appelle Tadzio, qui n'a d'autres préoccupations que jouer sur la plage et qu'il aura certainement l'occasion de rencontrer. Voilà, c'est tout ça, cet adagietto qu'il a dédié à sa femme, Alma Mahler. Pour ça, il faut s'établir ce que je disais tout à l'heure dans la nuit. C'est-à-dire laisser quand même les yeux fermés et laisser revenir des choses auxquelles on n'avait jamais pensé ou qu'on a cru oublier, qui surgissent progressivement au fur et à mesure de l'écriture ou de la préparation à l'écriture, parce qu'on ne peut pas écrire enfin sans être intimement habité par celui dont, ou ceux, ou celles dont on va parler. Il faut qu'il y ait ce débordement, et c'est imagé par ce glissement du bateau sur la lagune, sachant que la lagune renferme elle-même tant de souvenirs. Voilà.
Merci, Bravet.
Merci, c'est bon.
C'était Yves Ravet qui nous présentait son roman Sans état d'âme, à paraître aux éditions de Minuit. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Soma Nina, Manuel Couturier.